Vous êtes sur RTL.
RTL Soir avec vous, Julien Cellier, bonsoir.
Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Bienvenue dans RTL Soir. Ça y est, c'est parti pour deux heures d'actu avec vous. Et à la une, cette frayeur à Roissy. Un Boeing incontrôlable, juste avant son atterrissage, des pilotes qui réussissent tant bien que mal à remettre les gaz. Vous allez entendre leur conversation dans le cockpit et le témoignage RTL d'une passagère qui a bien cru que sa dernière heure était arrivée. Les autres titres de l'actu dans votre journal imminent. Bonsoir Marion Calais.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Et dans ce journal, des plaintes, des sanctions et des matchs plus longs. Plainte contre l'administration de la famille de Samuel Paty, plainte contre l'état de la famille d'Ivan Colonna, on va vous expliquer. Les sanctions, ce sont celles discutées par l'Europe contre la Russie et qui se font un peu trop attendre au goût de certains. Les matchs plus longs, ça c'est la piste envisagée par la FIFA pour le prochain mondial. 100 minutes au lieu de 90 aujourd'hui.
À 18h15, l'invité de RTL sera Michel-Édouard Leclerc. Le patron des magasins du même nom réagira à la hausse du panier RTL. La guerre menace-t-elle votre pouvoir d'achat? Faut-il craindre des pénuries? Nous allons lui poser ces questions. Dans un quart d'heure, la brigade RTL va s'interroger. J-4 avant l'élection présidentielle, peut-on faire confiance aux sondages? Dans une demi-heure, demandez le programme. Qui propose quoi pour nos écoles ce soir? Et puis 18h30, laissez-vous tenter dernière les confessions exclusives de Renaud sur RTL. À un mois de la sortie de son nouvel album, politique, vaccin, chanson, il nous dit tout de sa voix enrouée qui le stresse tant.
Oui, déjà quand je parle, elle est un peu éraillée. Quand je chante, c'est un peu laborieux. J'ai de plus en plus de mal à chanter, c'est pour ça que j'ai envisagé de ne pas faire de tournée avec cet album. Parce que j'en ai trop galéré sur la dernière tournée, en 2016, avec ma voix, qui était enrouée, qui était rocailleuse. Elle dit toujours...
À 18h40, on va défaire le monde avec Céline Landreau, avec toute la bande. Bonsoir Céline.
Bonsoir.
Le programme.
Après les pizzas, le chocolat, maintenant du fromage. Alors que les rappels de produits se multiplient, on vous propose une plongée dans les usines agroalimentaires, aseptisées, contrôlées. Vous verrez comment on tente d'éviter les produits contaminés. Au menu également Tiger Woods, roi du comeback. Et puis vous verrez qu'on peut faire 25 fois le tour de la Terre en Peugeot.
Pourquoi pas?
Oui, 25 fois.
C'est possible. 19h15, on va refaire le monde, refaire la campagne avec nos polémistes et puis des points météo tout au long de l'émission. Avec vous, Peggy Broche, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance.
Pluie et vent demain au programme.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
Et on a, semble-t-il, frôlé l'accident hier à l'aéroport de Roissy à Paris.
Le vol AF011, vol Air France entre New York et Paris, en difficulté au moment de l'atterrissage. On va tenter de comprendre ce qui a pu se passer après ce témoignage. Document RTL, Jessica était à bord, elle raconte la panique au moment des faits.
On était en train de traverser des nuages et on a senti des gros trous d'air en fait. Ce qui était surtout impressionnant, c'est que des gens ont commencé à crier. Il y avait rien qui nous laissait penser qu'il y avait un truc grave qui se passait, mais c'est vrai que voilà, ça secouait un peu. Très vite, on a senti que l'avion remettait les gaz et remontait. Alors, je suis hyper admirative du sang-froid des pilotes et aussi de l'équipage parce que voilà, on n'a pas du tout ressenti de stress. C'est super impressionnant et de savoir qu'ils ont fait ça, ils ont réussi à éviter la catastrophe, on se sent vraiment chanceux.
Le témoignage de cette passagère que vous avez pu joindre pour RTL, Arnaud Touche, bonsoir.
Bonsoir.
Une enquête est désormais ouverte par le BEA, le Bureau d'enquête et d'analyse, qui parle d'un incident grave. Est-ce qu'on sait ce qui a pu se passer?
Eh bien non, c'est bien ce que cherche à vérifier le BEA qui vient d'ouvrir à peine une enquête parce qu'il s'appuie sur les données de vol qui sont en fait entre les mains des experts en ce moment à Paris, mais aussi sur les conversations entre le cockpit et la tour diffusées sur le site airlive.net. Alors que le Boeing 777 est en approche, les alarmes retentissent clairement.
Air France 0.
Je vous rappelle.
L'avion part à ce moment-là sur la gauche, alors qu'il devait aller tout droit vers la piste. C'est ce que constate aussi la tour de contrôle sur ses écrans radars. Les pilotes font tout pour que la situation se stabilise. Ils redécollent et rappellent.
Air France 0, on a remis les gaz, donc un problème de commande de vol. L'avion fait à peu près n'importe quoi, donc le temps de gérer un peu la situation, si vous pouvez me donner une très longue vague d'arrière.
Alors les remises de gaz sont assez courantes, hein, effectivement, mais ce n'importe quoi indiqué par le pilote interroge. Deux hypothèses ce soir. Soit il s'agit d'un problème matériel ou de pilotage. Les pilotes y seront entendus rapidement par les enquêteurs. L'avion reste ce soir évidemment cloué au sol pour expertise. Quoi qu'il en soit, les passagers ont tout de même pu atterrir sans encombre et c'est bien là l'essentiel.
Ouf. Récit signé Arnaud Touche, spécialiste transport de RTL.
L'État et l'administration visés ce soir par deux plaintes. La première déposée donc contre l'État par la famille d'Ivan Colonna, mort après avoir été agressé en prison par un djihadiste, un DPS détenu particulièrement signalé, qui, malgré de nombreux incidents, avait un statut d'auxiliaire, en l'occurrence en charge du ménage. Il pouvait donc circuler plus librement dans la prison. Pour l'avocat de la famille, maître Sylvain Cormier, les défaillances ont été trop nombreuses.
Par exemple, M. Abbé était détenu particulièrement signalé en tant que tel, il n'avait pas nature à rester dans un endroit isolé avec Ivan Colonna. C'est leur propre texte qui prévoit qu'on ne laisse pas deux DPS ensemble, par exemple. Ben, c'est pas ce qui s'est passé. Et que normalement, quelqu'un qui accumule les incidents n'a pas vocation à être auxi. Et pourtant, Abbé était auxi. Quelqu'un qui est particulièrement surveillé est normalement quelqu'un au moins en particulière sécurité. C'est inadmissible, c'est inconcevable qu'il ait pu y avoir cette agression qui a quand même duré 10 minutes sans que rien ne se passe, sans que personne n'intervienne.
L'avocat de la famille d'Ivan Colonna, joint pour RTL par Anne Levenaf.
La seconde plainte qui vise l'État ce soir, elle a été déposée par la famille de Samuel Paty, cet enseignant décapité en octobre 2020 dans les Yvelines. Pour ses proches, Thomas Proutot, les ministères à la fois de l'Éducation nationale et de l'Intérieur ont failli. L'assassinat, selon eux, aurait pu être évité.
Oui, pour la famille de Samuel Paty, l'ensemble des signaux d'alerte, après son cours contesté sur les caricatures de Charlie Hebdo, aurait dû conduire à une protection rapprochée du professeur. À la place, on le rappelle, c'est un simple renforcement des patrouilles devant le collège de Conflans-Sainte-Honorine qui a été décidé. Et cela dans un contexte de menace terroriste maximale pendant le procès des attentats de janvier 2015. Selon la famille Paty, une protection aurait empêché le terroriste d'agir. La plainte que RTL a pu consulter vise nommément toute une série d'acteurs, notamment la responsable sécurité du rectorat, les policiers du renseignement territorial des Yvelines et les agents de la DGSI, service chef de file de la lutte antiterroriste.
Et pourquoi cette plainte arrive-t-elle maintenant, Thomas, un an et demi après les faits ?
Bien, la famille et son avocate ont voulu prendre le temps de construire une plainte solide et étayée. Depuis l'attentat, inlassablement, ils ont demandé et obtenu la plupart des échanges par mail entre les acteurs. Un exemple parmi d'autres. Dès le 9 octobre 2020, 7 jours avant l'attentat, un policier du renseignement territorial informe le rectorat qu'une des vidéos qui dénonce le professeur a été retweetée par des comptes qui prônent le terrorisme. Le 12 octobre, un rapport confidentiel du même service estime que les tensions se sont apaisées. Le 16 octobre, Samuel Paty meurt assassiné à 200 mètres de son collège.
Les explications de Thomas Proutot, chef du service police-justice de RTL. Là, c'est une enquête qui a été ouverte par le parquet national financier. À 4 jours du premier tour de la présidentielle, la justice s'intéresse au volet fiscal de l'affaire McKinsey, le cabinet de conseil accusé de ne pas avoir payé d'impôts en France entre 2011 et 2020. Enquête bienvenue pour la candidate Les Républicains, Valérie Pécresse.
Il était temps. C'est un scandale qu'une entreprise qui reçoit des centaines de millions d'euros de commandes publiques puisse aller faire une fausse déclaration au Sénat en disant qu'elle paye ses impôts en France.
La candidate LR à la présidentielle, Valérie Pécresse.
RTL, 18h08 après le massacre de Boutcha en Ukraine, le ton se durcit contre Moscou.
Nouvelles sanctions prises par Londres et Washington, les grandes banques et la finance notamment visées. L'Europe, elle, pendant ce temps, discute. Et pour Guy Verhofstadt, député européen belge, ça ne va ni assez vite, ni assez loin.
Savez-vous pourquoi votre stratégie ne fonctionne pas ? Eh bien parce que des sanctions progressives, ça marche dans les démocraties, mais pas avec les autocrates. Le charbon, c'est ridicule. Seulement 3% des exportations russes. Exclure les banques, ridicule. Plus de 50% des établissements ne sont pas concernés. Et les oligarques, il faut cibler les 6000 personnes qui tournent autour de Poutine. Et nous avons la liste.
Le coup de gueule de Guy Verhofstadt qui demande la réunion d'un Conseil européen extraordinaire pour prendre immédiatement toutes les sanctions possibles.
Et c'est vrai que c'est la petite musique qui monte. Pour autant, ce n'est pas le chemin qui est pris, Bénédicte Tassard. Pour l'instant, les Européens se refusent toujours à cibler le gaz et le pétrole russe.
Alors, on trouve dans la nouvelle liste de sanctions en préparation le fret maritime et routier russe, terminer les livraisons et les prises de commandes dans l'Union européenne, sauf énergie, céréales et aide humanitaire. Terminer l'achat d'alcool, de fruits de mer, de ciment, de bois russe. quelques banques, quelques oligarques ciblés, comme le soulignait à l'instant Guy Verhofstadt. Mais la réflexion est en cours et déjà, on apprend que les deux filles de Vladimir Poutine, Maria et Katerina, seraient rajoutées à cette liste. Pour le pétrole et le gaz, les discussions sont très mouvementées. Charles Michel, le président du Conseil européen, a donné un coup de pouce pour l'embargo devant les parlementaires.
The new package.
Le nouveau paquet de sanctions comprend le charbon. Je pense que tôt ou tard, les compagnies de pétrole et de gaz doivent elles aussi être visées.
Finalisation normalement demain.
Bénédicte Tassard, le conflit en Ukraine qui se concentre sur l'Est désormais. Kiev appelle les habitants à évacuer la zone.
Allez, une pause et dans un instant, notre panier de courses RTL, toujours plus cher, particulièrement l'huile de tournesol. Les professionnels aussi le constatent. Reportage dans une usine de chips juste après ça. A tout de suite.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
18h12, la suite de votre journal sur RTL, plus 15% dans le panier RTL. C'est la plus forte hausse ce mois-ci et elle concerne l'huile de tournesol.
Largement importée d'Ukraine, alors ça vaut pour nous particuliers évidemment, et ça vaut aussi pour les professionnels comme chez ce producteur de chips où vous vous êtes rendu dans l'Oise, Julie Bro, où cette augmentation se fait aussi sentir.
Oui, à l'intérieur, des grosses cuves en plastique remplies d'huile de tournesol. Julie, co-gérante de SoChips, les regarde avec appréhension.
Donc à peu près 2020, ça valait 1 300 € les 1000 litres. Et aujourd'hui, on est à 3 600 €. Même pas en deux ans de temps, on a fait un bond de x3.
Résultat, dans la hâte, pas d'autre choix que d'augmenter le prix du paquet de chips.
Sur un paquet de chips comme celui-ci, qui fait 125 grammes, le tarif va augmenter d'environ 20 centimes. On arrive à 2,40 €. Donc ça fait une augmentation... Oui, certes sensible, mais malheureusement inévitable.
Mais pour Julie, les chips doivent rester un produit accessible et populaire, alors elle cherche une solution à plus long terme.
Ça pourrait être changé d'huile, mais pour autant, l'huile de tournesol, d'un point de vue environnemental, la plus qualitative. Et ça correspond vraiment, nous, à l'ADN de chez SoChips. Alors que le colza, qui peut être une alternative, est une plante qui est plus traitée. Je sais pas en fait. Faut qu'on réfléchisse.
Réfléchir, mais vite, s'inquiète Julie, les prix flambent à une vitesse effrénée.
Julie Bro à Longueuil-Sainte-Marie dans l'Oise pour RTL. Voilà une piste qui a fait bondir les puristes du foot, n'est-ce pas Julien ?
Je ne m'en remets pas.
Le journal italien Corriere dello Sport présente aujourd'hui une possible évolution de la durée des matchs. Nicolas Georgerot, dès le prochain mondial au Qatar en novembre, les rencontres pourraient être rallongées de 10 minutes.
Oui, de 90 à 100 minutes rallongées serait un énième moyen de redynamiser les matchs. La FIFA a fait les comptes, il n'y a pas assez de temps de jeu effectif à cause des fautes, à cause des changements, à cause de l'assistance vidéo. Temps de jeu autour d'une heure sur une rencontre de 90 minutes. Alors, on s'y perd un peu avec la FIFA, tant les initiatives, les ballons d'essai n'arrêtent pas depuis 4 ans. Certains, au contraire, veulent réduire les périodes à 30 minutes pour intéresser davantage les jeunes générations adeptes du zapping. Van Basten, l'ancienne gloire néerlandaise, milite pour abolir le hors-jeu. Arsène Wenger souhaite que les joueurs puissent frapper un coup francs pour eux-mêmes. La Coupe du Monde va donc passer à 48 nations en 2026. L'été dernier, un tournoi espoir aux Pays-Bas a servi de laboratoire. Les touches étaient jouées au pied. Un carton jaune entraînait une exclusion temporaire de 5 minutes. Du sport, oui. Du football, pas vraiment.
C'est l'esprit du foot qu'on tue, diront certains.
Oui, je peux le dire, moi, si vous voulez. Pourquoi pas supprimer les fautes aussi, hein? Pourquoi pas,
tout est possible.
Nicolas, tout est possible. Tout est possible. Je m'insurge. Merci Marion, merci Nicolas. À tout à l'heure Marion. Le temps pour demain.
Bien perturbé demain, Julien, avec beaucoup de pluie, beaucoup de vent sur les trois quarts nord du pays. Une bonne partie de la journée, le nord-ouest retrouvera un temps sec dans l'après-midi et dans le sud. Un temps sec entre nuages et éclaircies entre le sud de l'Aquitaine et la Méditerranée, comme en Corse, où le vent va se renforcer dans l'après-midi, des rafales jusqu'à 110 km/h. Les températures seront douces, le matin de 7 à 11 degrés, les maximales de 11 à 16 au nord, jusqu'à 22 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Et ce soir, la brigade RTL s'interroge. Peut-on croire les sondages ? Faut-il croire les sondages ? C'est vrai que les dernières variations interpellent à 4 jours du scrutin. Emmanuel Macron a perdu jusqu'à 4 points en un mois dans certaines études. Jean-Luc Mélenchon, lui, c'est l'inverse, on a gagné 4. C'est beaucoup. On va donc poser 3 questions à la brigade RTL. Bonsoir Thomas Després.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
C'est vrai que ces écarts, ils bougent énormément en ce moment. Est-ce que ça signifie que les sondeurs ne sont pas sur 2 ?
Oui et non. Deux observations. D'abord,
Corse. Cela veut surtout dire que le choix des Français est extrêmement mouvant et qu'on est exactement dans ce qu'on appelle la période de cristallisation. Selon notre dernier sondage BVA pour RTL, 35% des personnes interrogées indiquent ne pas encore avoir choisi leur candidat. Donc cela rend les variations encore plus visibles et les sondeurs nous préviennent que jusqu'au dernier moment, cela peut encore changer. Deuxième observation, les marges d'erreur, Julien. On en a déjà parlé ici, elles rendent les résultats difficilement lisibles. Prenons le dernier sondage Harris Interactive qui sera notre partenaire dimanche sur RTL. Au second tour, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont dans un mouchoir de poche avec 1,5 point d'écart, compris dans cette marge d'erreur. Cela veut dire concrètement qu'on ne sait pas réellement qui pourrait l'emporter.
Forcément, ça pose question. Est-ce qu'il y a déjà eu dans l'histoire récente des surprises non anticipées ?
Oui, des exemples désormais célèbres à l'étranger. D'abord, bien sûr, le Brexit, c'est le principal exemple raté des instituts de sondage britanniques. À l'époque, les sondeurs avaient estimé 52-54% les partisans pour rester dans l'Union européenne. On connaît le résultat. Autre exemple, l'élection de Donald Trump ou encore en France, les élections régionales. L'année dernière, les sondages anticipaient plusieurs régions conquises par le Rassemblement national. À l'arrivée, aucune victoire pour le RN.
Vous parlez des régionales, mais sur les élections, sur l'élection présidentielle en tout cas, ici en France, est-ce que les sondeurs se sont déjà trompés ?
Alors dans la plupart des cas, non. Sur les trois dernières élections présidentielles, à savoir 2007, 2012 et 2017, les sondages avaient donné dans l'ordre les cinq premiers qualifiés sur les trois semaines qui précèdent le jour du scrutin. En revanche, si on remonte à 2002, il y a 20 ans, cette année-là, personne ou presque n'avait vu la percée de Jean-Marie Le Pen et surtout la chute de Lionel Jospin. Et pourtant, lui aussi, il avait perdu 4 points en moins d'un mois.
Les explications de la brigade RTL. Merci beaucoup Thomas Després. Courte pause, ensuite RTL au supermarché. On fait les courses, comme vous, et le panier RTL n'a jamais coûté aussi cher. Michel-Edouard Leclerc sera notre invité juste après ça. A tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier. Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
18h20, bonne fin de journée. RTL fait les courses avec vous en quelque sorte ce soir. Notre panier RTL n'a jamais coûté aussi cher. Vous devez le ressentir vous aussi à la caisse. Depuis l'automne, chaque mois, nos reporters vont acheter les 13 mêmes produits dans les supermarchés des mêmes grandes villes. Et bien en un mois, les prix ont augmenté de 3,3%, quasiment plus 50% dans certains magasins pour l'huile de tournesol, plus 15% pour des paquets de café. Bonsoir Michel-Edouard Leclerc.
Bonsoir.
Merci d'être notre invité. Vous êtes le président du comité stratégique des centres Leclerc. Avec vous, on va s'interroger. Est-ce que la guerre menace notre porte-monnaie ? Est-ce que les comportements de clients sont en train de changer ? Je voudrais vous faire écouter ce témoignage très concret. C'est celui de Jeanne. C'est une auditrice. Elle gère un petit supermarché dans le centre-ville de Dijon. Et elle nous a laissé un message assez édifiant au 3210. Écoutez-la.
Lundi, 1500 prix a changé à la hausse. Tout ce qui est pain, farine, café. Par exemple, vous voyez sur le pain suédois, je le vendais 2,40 et il est passé à 2,90. Donc c'est énorme. Les pâtes, elles ont pris 25 centimes. Plus d'huile de tournesol. Mais pour le coup, les gens commencent à se dire qu'ils voient des ruptures dans les rayons et ils commencent à acheter par 3 ou 4 leurs produits. Le papier toilette, bah, je pense que c'est les étiquettes que j'ai à changer aujourd'hui. On était prévenus d'une hausse sur le papier toilette. Sur les mouchoirs, bah, on a pris une hausse aussi, mais on n'a plus de mouchoirs non plus en rayon depuis un mois. On a rarement vu des hausses de prix aussi énormes.
Alors Michel-Edouard Leclerc, vous avez une vision plus large de la situation, mais c'est vrai que le témoignage de Jeanne à Dijon, il soulève tout un tas de questions. On va essayer de prendre les exemples les uns après les autres. Déjà, ces pénuries d'huile de tournesol. Est-ce qu'il faut appeler les clients à la raison ? Si tout le monde consomme normalement de l'huile de tournesol, a priori, tout se passera bien, on est d'accord ?
Absolument. Il n'y a pas de pénurie. Il peut y avoir des ruptures de certaines marques, de certaines provenances, mais il n'y a pas pour le moment de risque pénurie. Et d'une manière générale, il faut arrêter d'attribuer à la guerre en Ukraine l'inflation et les problèmes qu'on rencontre en ce moment. L'inflation qui arrive dans les magasins, c'est l'inflation d'augmentation de tarifs et d'augmentation de coûts de l'année dernière. Et c'est les négociations commerciales avec les fournisseurs ont eu lieu jusqu'à fin février. Et aujourd'hui, donc, les commerçants sont appelés à répercuter aux consommateurs, plus ou moins, les hausses des coûts des fournisseurs. Mais c'est ce qui a été produit en 2021. C'est pas ce qui... Et l'Ukraine rajoutera sans doute une couche
à terme
à cette inflation.
Est-ce qu'il y a d'autres produits dans vos supermarchés Leclerc qui disparaissent, soit à cause de comportements qui ne sont pas rationnels, soit parce qu'il y a un manque ?
Oui, localement, il y a tantôt des pâtes, tantôt du riz, tantôt... Je ne dis pas d'ailleurs dire qu'il y a une forme de rationalité. C'est souvent le on dit. Mais ouais. J'insiste, il n'y a pas, dans l'économie française aujourd'hui et jusqu'au mois de juin, il n'y a pas de risque de pénurie. Mmh. Il peut y avoir des ruptures, des magasins moins bien gérés, des filières un peu tendues. Mais il y a du produit. D'ailleurs, nous les avons achetés et nous les avons en stock.
Vous dites jusqu'au mois de juin, et c'est vrai que c'est aussi l'avenir qui inquiète, parce qu'il va falloir se passer des récoltes de céréales, de tournesol qui sont prévues en Ukraine, en Russie, dans les mois à venir.
Peut-être. On ne sait pas, peut-être, parce que vous voyez, il y a aussi beaucoup de gens qui veulent faire des sous, qui spéculent, et qui ont envie de se rattacher à cette histoire, à ce drame qui se déroule en Ukraine. Mais enfin, le blé ukrainien, il n'a pas encore été semé, vous voyez. Donc, indépendamment même des effets des sanctions, de savoir s'il pourra être récolté ou semé...
Ça veut dire que pour vous, on n'est pas certain de manquer de produits dans les mois qui viennent?
On est à peu près certain qu'il y aura, à la suite des sanctions qui ont été prises contre la Russie a annoncé qu'elle n'exportera pas un certain nombre de grains. On sait aussi qu'il y aura... avec les sanctions sur le gaz, des engrais en moins pour l'agriculture, il y aura un impact. Mais l'ampleur n'est pas mesurable aujourd'hui.
Évoquons les prix qui augmentent, parce que ça, on arrive à le mesurer aujourd'hui. C'est vrai que le coût de l'énergie explose, le coût des transports explose. Quels sont les produits du quotidien les plus sensibles à ces hausses en ce moment, ceux qui vont augmenter fatalement?
Alors, ceux qui vont augmenter, d'abord, c'est dans l'alimentaire. Le café, le chocolat, c'est dû à de mauvaises récoltes l'année dernière. Alors quand je dis l'année dernière, c'est d'un point de vue occidental d'Europe de l'Ouest, parce que les saisons ne sont pas les mêmes partout sur la planète. Et donc là, il y a des très très grosses hausses. Les marchés des matières premières ont augmenté. Alors j'ai des mercuriales tous les jours. Le café arabica, ces 12 derniers mois, a augmenté de 82%. Sur le marché international. Le café Robusta de 61%, l'huile de tournesol de 54%. Entendons-nous bien, ce sont les marchés de matières premières qui augmentent, et évidemment, celui qui doit acheter sa matière première, il est obligé de l'acheter au prix fort. Maintenant, il faut se battre contre ça, parce que ce n'est pas inéluctable. Il y a une inflation... je veux dire, qui est rationnellement justifiable, c'est celle de nos produits agricoles français qui avaient, pendant 4 ans, été en déflation. Et là, il y a un rattrapage. Donc, il faut juste comparer d'une enseigne à l'autre. C'est pas la peine de se faire avoir. Il y a des gens qui sont moins chers, des gens qui sont plus chers. Mais tout ce qui est grand marché de matières premières internationales, il y a beaucoup de spéculation. Il y a tellement de fonds qui achètent ça dans l'idée de revendre plus cher, moi je ne trouverais pas ça juste qu'on fasse payer aux consommateurs français des dividendes de sociétés cotées en bourse ou de sociétés qui ne sont pas...
En tout cas, on voit pour certains produits comme le café, c'est déjà le cas. Pour les produits qui potentiellement peuvent être les plus touchés par le conflit en cours, le gouvernement estime déjà que vous, la grande distribution, vous allez devoir acheter plus cher les produits aux industriels. Les discussions reprennent. Vous, chez Leclerc, vous êtes prêt à vous asseoir sur certaines marges?
Alors, oui, bien sûr. Mais d'abord, à la fin des discussions, que ce soit les syndicats agricoles ou que ce soit les industriels, tout le monde a parlé d'une inflation moyenne de 3%. D'accord? Hors énergie, hors facture de fuel, de carburant, etc. Donc, cette inflation... vous pouvez constater aujourd'hui, quand vous allez chez un Lidl, un Aldi, un Système U, un Carrefour, un Leclerc, tout le monde ne se précipite pas pour la faire passer. Donc ça veut dire que les distributeurs, qui ne veulent pas être les premiers à faire passer l'inflation, ils le prennent sur leur marge. D'accord ? Et donc c'est sain, c'est bien. Il y a une compétition, et donc moi j'invite les consommateurs d'abord. Je suis d'accord que tout va augmenter, d'accord ? Mais tout ne va pas augmenter également. Et donc, il faut utiliser des comparateurs de prix, il faut regarder les publicités, et surtout, il ne faut pas se précipiter.
Ouais. Vous parlez de marge. Vous distribuez aussi du carburant chez Leclerc. Et c'est vrai que la remise initiée par le gouvernement, ça y est, est entrée en vigueur, moins 18 centimes à la pompe. Est-ce que vous pourriez aller plus loin?
Aujourd'hui,
certains
non.
L'ont fait, non?
C'est...
Proposer des bons d'achat, des opérations promo sur un week-end, c'est possible ça?
Alors ça, on le fait. Mais le prix du carburant lui-même, on est à zéro. Donc on n'a pas le droit de vendre à perte en France. Et je crois que tout le monde reconnaît que Leclerc, sur le prix des... avec le nombre d'opérations à prix coûtant, qu'on n'est pas les plus féroces sur les marges.
Ouais.
À chaque fois que l'on... Moi, vous voyez, le retour de l'inflation... Moi, j'ai vécu l'inflation. Je suis plus âgé que vous. Contrairement à beaucoup de Français... Moi, j'ai vécu des périodes d'inflation. Et donc, pour se battre, je sais qu'il faut se battre contre l'inflation. Et pour se battre contre l'inflation, il faut quelquefois prendre des coups. Et c'est vrai qu'il faut refuser à certains fournisseurs des tarifs tant qu'ils ne sont pas transparents, tant qu'ils ne sont pas clairs. Et moi, j'ai l'impression de me battre pour mes clients. On a 18 millions de clients dans les centres Leclerc. Vous avez 10 millions d'auditeurs à RTL. On se bat pour notre camp. Hein. Et donc, oui, il y a des enseignes qui seront moins chères. Et on en fera partie.
J'ai deux petites questions rapides pour terminer. On évoque avec vous là les conséquences en cours ou à venir du conflit. Vous avez un concurrent qui ne veut pas fermer ses supermarchés en Russie, c'est Auchan. Oui. Vous comprenez ? Ça vous choque ? C'est du business ?
Je pense que ce qu'il faut, c'est sanctionner. Il ne faut pas se sanctionner soi, il faut sanctionner les agresseurs. La Russie est clairement envahisseur de l'Ukraine. Quelles que soient les motivations qui est données à son peuple, aujourd'hui, il faut sanctionner l'envahisseur. Et donc, fermer les magasins Auchan, je ne sais pas si c'est vraiment une sanction pour les Russes. Parce que pour le coup, ils vont se faire nationaliser ou ils vont se faire réapproprier. Et du coup, ce sont les oligarques russes qui vont se payer les magasins Auchan.
Dernière question. On est frappé en ce moment, Michel-Édouard Leclerc, par les scandales alimentaires en cours, et notamment celui des pizzas Buitoni avec deux enfants décédés, des hospitalisations liées sans doute à la bactérie E. coli. L'usine du Nord qui les fabrique, ces pizzas à Caudry, est fermée. Leur rapport rendu à la préfecture qui a pris cette décision aujourd'hui est assez accablant sur les conditions d'hygiène. Est-ce que ça vous interpelle ? Est-ce que vous pouvez être certain de la qualité des produits que vous vendez dans vos rayons ?
Moi, je n'ouvre pas toutes les boîtes, hein, c'est clair. Et pas plus un pharmacien que n'importe quel commerçant de n'importe quelle enseigne. On ne peut pas ouvrir toutes les boîtes. Et d'ailleurs, ce ne serait pas sain qu'on ouvre nous-mêmes toutes les boîtes.
Et vous demandez davantage de garanties ?
Bah oui, forcément. Et cette affaire répétée après l'affaire Lactalis, et alors qu'il y a une affaire aussi Kinder, Ferrero, je veux pas accabler l'industriel, parce que. Mais en même temps, oui, ça nous oblige à renforcer les contrôles de qualité, à mettre des responsables de qualité un peu partout. Ce sont des métiers d'ailleurs pour lesquels nous recrutons. Après, si on en parle beaucoup, c'est aussi parce que ça vous choque et donc ça veut dire que ça se passe pas tous les jours. Il faut aussi voir l'autre côté. Alors, par contre, excusez-moi, mais moi j'en parle parce que vous m'interpellez comme professionnel, mais moi je pense toujours d'abord aux gosses, par exemple, qui sont atteints par Escherichia coli. J'ai vécu ces crises-là, j'en ai connu en 40 ans de métier, et c'est d'abord aux familles qu'on doit cette transparence et cette réactivité.
Merci Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres Leclerc, d'avoir été ce soir notre invité, alors que le panier RTL est le panier des Français aussi.
On va se battre ensemble contre l'inflation.
Merci d'avoir été notre invité. Dans un instant, RTL Soir continue avec Demandez le programme, à 4 jours de l'élection, les propositions des candidats pour nos écoles, et puis Laissez-vous tenter dernière avec les confessions. C'est une exclue et c'est exceptionnel de Renault. À tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier.
RTL. 18h33 minutes.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Allez, bonne fin de journée avec RTL. Marion Calais vous rappelle les trois grands titres de l'actualité.
La plainte de la famille de Samuel Paty. Selon elle, les menaces qui pesaient sur l'enseignant auraient dû conduire à une protection renforcée. Une guerre qui peut durer plusieurs mois, voire plusieurs années. La mise en garde du patron de l'OTAN en Ukraine. C'est l'est du pays désormais que vise la Russie. Les autorités appellent à évacuer la région. Et puis des commandes qui ne répondent plus sur un Boeing 777. Accident évité de peu hier à l'aéroport de Roissy. Le BEA ouvre une enquête.
Merci Marion. La tendance météo pour demain, Peggy.
Bien pluvieux sur les trois quarts nord du pays avec beaucoup de vent.
Merci Peggy.
Présidentielle 2022. Demandez le programme.
Et à 4 jours de l'élection, c'est donc Demandez le programme comme tous les soirs à cette heure-ci. Qui propose quoi pour nos écoles ? Bonsoir Marie Garrier.
Bonsoir.
Nous sommes à 48 heures des vacances de printemps pour la première zone, les plus chanceux. Est-ce qu'il y a des candidats, tiens, à l'Élysée qui veulent revoir les rythmes scolaires ?
Oui, l'écologiste Yannick Jadot qui n'exclut pas de revoir le calendrier des vacances, le déroulé des journées. Il dit vouloir s'inspirer du modèle finlandais pour intégrer dans le temps scolaire du temps consacré à d'autres apprentissages, notamment dans la nature, et il prévoit d'organiser une conférence de consensus sur toutes ces questions. Jean-Luc Mélenchon, lui, veut aussi mener une concertation pour redéfinir les rythmes scolaires, revenir, dit-il, à un cadrage national avec accès à des enseignements sportifs et artistiques gratuits. Marine Le Pen, elle, veut ajouter 3 heures de cours aux écoliers. Ils iraient à l'école tous les mercredis matins, sans raccourcir les autres jours de la semaine. 27 heures de cours au lieu de 24 hebdomadaires, c'est aussi dans le programme du communiste Fabien Roussel.
Quasiment tous les candidats veulent réduire les effectifs en classe.
Oui, alors Alors le président sortant avait déjà amorcé le mouvement. Après les CP et les CE1 dédoublés en éducation prioritaire, Emmanuel Macron veut parvenir à 100% des grandes sections dédoublées. Et dans l'éducation hors prioritaire, son objectif c'est 24 élèves par classe jusqu'en CE1. 20 élèves par classe en primaire. On trouve cette proposition dans plusieurs programmes. Chez les communistes, chez Jean Lassalle, Philippe Poutou, Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon, lui, s'est fixé l'objectif de 19 élèves par classe partout au bout de 5 ans. Et c'est pour ça notamment qu'il veut recruter 160 000 enseignants.
Et puis il y a des candidats qui veulent un tri à l'entrée du collège.
Éric Zemmour veut que les élèves passent un certificat de fin d'études en CM2 pour ensuite entrer en 6e. En fonction des résultats, il y aurait des classes de niveau. C'est la fin du collège unique. Pour Valérie Pécresse, il s'agit d'un examen d'entrée en 6e. Ceux qui n'auront pas bien réussi iront au collège, mais dans une classe de consolidation avec français et maths renforcés.
Demandez le programme pour nos écoles avec Marie Garrier ce soir pour RTL. Merci Marie.
Présidentielle 2022. Demandez le programme.
18h35.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et un rendez-vous exceptionnel, s'il vous plaît, ce soir, en exclusivité, les toutes premières confidences de Renaud. Il a choisi RTL un mois avant la sortie de son nouvel album Metech. Bonsoir Steven Bellery.
Bonsoir à tous.
Alors on est ravis d'avoir des nouvelles de celui que tout le monde considère un peu comme un vieux copain. Un copain en forme, hein, c'est ça Steven?
En tout cas en meilleure forme que la dernière fois que je l'avais croisé. Je l'ai trouvé souriant, il arborait un t-shirt aux couleurs de l'Ukraine. Le chanteur qui fêtera ses 70 ans le mois prochain s'est livré pendant près d'une heure à notre micro. Il n'a fumé que deux clopes. Il m'a notamment confié qu'il voterait pour Philippe Poutou dimanche, le candidat le plus à l'extrême gauche, quasiment un nanar selon ses mots. On n'avait pas entendu Renaud depuis l'automne 2019. Je lui ai juste demandé, ben, comme un vieux copain, comment ça va ?
Ça va, très bien.
Vous avez enregistré cet album chez vous, je crois ?
Oui.
À Lille sur la Sorgue ?
Oui, album je vois en effet chez moi et les arrangements en studio à Paris, studio Guillaume Tell.
Est-ce que la voix, c'est quelque chose qui vous a stressé un peu ? On en avait parlé beaucoup la dernière fois.
Beaucoup, qui me stresse beaucoup. Moi déjà quand je parle, elle est un peu éreillée. Quand je chante, c'est un peu laborieux. J'ai de plus en plus de mal à chanter, c'est pour ça que j'ai envisagé de ne pas faire de tournée avec cet album. Parce que j'en ai trop galéré sur la dernière tournée, en 2016, avec ma voix, qui était enrouée, qui était rocailleuse. Elle dit toujours.
Mais elle veut dire beaucoup de choses aussi, votre voix d'aujourd'hui.
Celle d'aujourd'hui, plus grand-chose, mais celle d'hier, pas mal.
Il n'y aura donc pas de tournée, il n'y aura pas de concert non plus, peut-être un ou deux concerts autour de ce projet, de cet album.
Un ou deux concerts, oui. Exceptionnel.
Sur le pervers, tu pourras, si tu veux, me raconter ta vie. En fait, une épopée.
En novembre 2019, vous m'aviez dit que vous tourniez au Bitter San Pellegrino. C'est ce que vous êtes en train de boire devant moi. C'est toujours le cas ? On ne vous paye plus de verre, Renaud ?
Depuis un an et demi, je ne bois plus une goutte d'alcool. J'en suis particulièrement satisfait. Par contre, je fume toujours comme un pompier. Je suis passé de 4 paquets de cigarettes par jour à un paquet.
Vous me disiez être en panne d'inspiration. Ça veut dire que vous n'avez pas écrit de chanson ces derniers mois ?
Si, j'ai écrit une chanson ou deux. Deux premières d'un album de 12 futurs.
Donc vous nous préparez un nouveau disque pour les prochaines années ?
Oui.
Qui sortirait quoi, en 2025 pour célébrer vos 50 ans de carrière ?
Oui, 2025, avril 2025.
Renaud, vous avez toujours soutenu Ivan Colonna ces dernières années.
Oui.
Comment est-ce que vous avez réagi à l'annonce de son agression le 2 mars dernier qui lui a coûté la vie ?
Ben j'ai pleuré. J'ai pleuré à militant indépendantiste, nationaliste, dont on peut pas la société nationaliste. Mais circonstances aussi graves, aussi hallucinantes, m'a bouleversé. Et je comprends les émeutes en Corse. Qu'on pense à cette jeunesse qui se révolte contre l'État français. Il les soutient.
Vous lui aviez rendu en visite en prison à plusieurs reprises ?
Oui, trois fois. Ça m'aille bien. Malheureusement, il a peut-être commis un crime. Peut-être. La queue du jugement était une parodie de justice. Jugé par un tribunal composé de magistrats comme jury. Donc, c'est vraiment une grande perte pour la liberté.
Vous pourriez lui rendre hommage dans votre futur album de chansons inédites, alors ?
Oui, bien sûr. Il compte bien.
Comment vous avez vécu les deux dernières années un petit peu bizarres qu'on vient tous de traverser, Renaud ?
Bah, comme tout le monde. Un peu emmerdé par le confinement. Je voulais pas me faire vacciner. Je suis contre le vaccin. Et quand ils ont interdit l'accès au bistrot qui n'avait pas le passe vaccinal, j'ai décidé de me faire vacciner. Pour pouvoir pas être privé de mon lieu de rendez-vous préféré, le bistrot ou les restaurants.
Sur pervers, on ira jusqu'au bout.
Si tu me payes un verre, reprise de Serge Reggiani. C'est le premier extrait de l'album Metech de Renaud qui sortira donc le 6 mai.
Merci Steven pour ces confidences exclusives. Les confidences, on l'a compris, d'un Renaud qui est toujours aussi engagé. Merci
et touchant.
Beaucoup et touchant. C'était cadeau. Une petite pause et ensuite on va défaire le monde dans RTL Soir. Les 20 minutes d'actu autrement. Céline Landreau, Néri Saemani, Laurent Tessier s'installent en studio. Kinder, Buitoni, fromage, scandale en série. Dans l'agroalimentaire, comment fonctionnent les usines ? Quelle hygiène, quel contrôle, quelle sécurité ? On vous dit tout juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.